au réseau Cogeco, vous écoutez Entre nous avec Sylvain Ménard.
Notre invité aujourd'hui, José Lito Michaud, de retour dans la chaloupe.
Avec toi.
On est tous les deux dans la chaloupe.
Ouais, les vagues sont grosses parce qu'on est encore en pleine pandémie. Les chiffres sont hallucinants. Mais on sait qu'on a un vaccin qui s'en vient.
C'est ça. Là, on rappelle que l'émission est préenregistrée. Là, ouais. on est à peu près à un mois de la diffusion.
Ouais, mais je te rassure que rendu là, on va encore avoir des chiffres difficiles.
Oh oui.
J'ai l'impression que oui.
Oui.
C'est fait pour durer encore quelques semaines, ça.
Mais quand on parle de... Je te parlais tantôt, José Lito, de ta propension à traiter le avant-après, c'est-à-dire d'arriver au milieu de tout ça. Ouais. La pandémie, socialement, est-ce qu'on va tirer quelque chose de ça? Pas comme individu, comme société.
Moi, je pense que s'il y avait eu la première phase seulement, non. Ouais. Parce que la preuve, cet été, on a oublié complètement qu'il y avait eu une COVID.
Ouais.
Mais là, la longueur étant, tu sais, sur la durée, là, puis des milliers d'emplois, puis les restaurants fermés, 10 000 restaurants vont fermer là au Canada, là, s'il vous plaît, c'est quand même pas rien. Je me suis dit, il y a quelque chose qui... D'abord, on va prendre moins les choses pour acquis. J'ai l'impression que ça va être ça qui va se passer. Puis, tout d'un coup, on va relativiser les choses. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'arrête au mois de mars-avril. Je sortais pas beaucoup à ce moment-là, comme bien du monde, mais j'allais faire de temps en temps mon épicerie pour m'arrêter. Puis, il y a un monsieur qui j'ai dit, puis ça va-tu? J'ai perdu mon emploi, ma femme a perdu son emploi. J'ai dit, êtes-vous heureux, malheureux de ça? Il dit, je suis tellement heureux. J'ai dit, pardon? Parce que j'ai deux enfants, il y en avait un sur ses épaules, puis l'autre à côté. Je ne voyais jamais ces enfants-là. Je découvre mes enfants. Ma femme, je la connaissais même plus.
Ouais.
Nous étions deux personnes organisées pour ne pas crever. C'est-à-dire, faut que ça rentre, les sous rentrent, puis il n'y a pas trop de plaisir. Puis... Et c'est ça que ça a donné. Tout d'un coup, de travailler de chez soi. Combien de fois on a demandé au monde, est-ce qu'on pourrait travailler une fois, 4 jours semaine au bureau, puis un vendredi, travailler à la maison? Aujourd'hui, ça va être le contraire. Peut-être qu'on va rentrer, on rentrera plus jamais au boulot. On va travailler de chez toi. Faut réorganiser le système.
Ah oui, il va y avoir une période charnière, là.
Bien sûr. Mais ils se sont rendus compte qu'il y avait de l'efficacité.
Parce qu'on a tendance à toujours vouloir tout changer du jour au lendemain. T'sais, OK, ben là, ça sera plus ça. Les édifices à bureaux vont devenir des centres pour les personnes âgées. Ça finit là, c'est fait, on n'appelle plus. Wow.
C'est pas possible encore, ça.
Ça marchera pas comme ça.
Non. Mais il y a une affaire qui est claire. Nous aimons le chaos. Pour revenir au titre, nous aimons le chaos. Donc, la désorganisation dans laquelle nous étions avant la pandémie, il y avait quelque chose qui ne marchait plus, était réconfortante puisque nous y étions tous. Il y avait quelque chose qui faisait au nom de l'abondance, on travaille, on a une double hypothèque, puis ah ouais, on s'en met de la charge sur les épaules. Aujourd'hui, les gens veulent se rapprocher de la nature, ils veulent être proches d'eux-mêmes. Il y a quelque chose qui a changé. Moi, j'ai vu du monde dire, je vais. Mais ça, c'est beaucoup à cause de ce qui s'est passé cet automne, pas l'été passé.
Tu as passé un bon bout de ta vie professionnelle, José Lito, à fouiller, à recevoir les confidences des autres.
Oui, je fais encore ça.
Oui, c'est ça. Et il y a un poids, hein?
Bien sûr.
Il y a un poids qu'il faut transporter là-dedans. C'est Oprah Winfrey qui disait, moi, dans des fêtes, dans des fêtes de famille, quand on me dit, Oprah, est-ce que je peux te parler? On va aller dans le coin, s'il te plaît. Elle dit, il y a deux choses. Soit qu'on veut me demander de l'argent, ou qu'on veut me raconter la pire histoire de leur vie.
Ben moi, ça ressemble à la deuxième, à pas mal. Et Oprah, c'est drôle parce que tu cites la personne que j'aime le plus au monde, que j'ai rencontrée, j'ai eu le plaisir d'aller sur son plateau.
D'une droiture.
Oh, j'aime cette personne. Pourquoi j'aime Oprah? Le mardi, elle était capable de parler de chaussures. Le mercredi, faire Bill Clinton. Et elle est en prison le vendredi pour rencontrer les prisonniers. Il y a personne qui peut faire ça. Et elle a surtout montré aux Américains à lire avec son club de lecture. Elle a incité les jeunes à lire, ce qui est extraordinaire en soi. Moi, c'est toujours les confidences. Écoute, des fois, mes amis me disent, on se croirait dans le train. Mais non, c'est parce que je t'écoute. On n'est pas habitué d'écouter les autres. Et d'être écouté, Sylvain, dans notre société, c'est rare. Moi, j'écoute pour de vrai. Je m'intéresse vraiment à l'autre. Mais là, écoute, quand je faisais le train, c'était quelque chose.
Mais de devenir l'aimant à confidence, à un moment donné, c'est un rôle qui est un rôle particulier.
Ben, c'est-à-dire que là, la COVID m'aide beaucoup dans le sens où je suis pas ça aide du monde, mais en tout cas, ça me permet de moins sortir. Et quand j'ai fait José Tour au cœur du monde, je marche beaucoup dans la vie. Moi, puis là, je voyais le monde qui m'arrêtait, qui me parlait. Vous avez pas entendu mon histoire, puis ça recommençait. En même temps, sais-tu quoi? Là, je suis mieux outillé. Parce que j'ai fait quelques thérapies qui m'ont aidé à pas tout prendre sur moi. Fait que là, je suis capable de m'entendre des histoires, mais pas pendant le train. Pendant le train, je suis devenu très triste à la fin du train.
Parce que généralement, les gens qui se confient à toi, c'est pas pour te confier la plus belle histoire de leur vie.
Non, non.
C'est pour te confier le moment triste, le moment rouge.
Ça, mais aussi, et que je suis flatté et... Moi, j'ai un problème d'égo, là. C'est pas mon genre, là. Mais c'est que j'en avais un, là. Je sors dans la rue puis je suis correct. On me dit combien de fois par jour qu'on m'aime, moi, ça se peut pas. Merci, monsieur Michaud, ce que vous faites pour nous. Merci de votre livre. Merci de... Or, on vous suit. J'ai juste commencé les réseaux sociaux. Les gens envoient des commentaires. Je le vois. Mm-hmm. J'en viens pas à quel point. Je sais pas. Mais donc, je suis très, très, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ce que je reçois des gens. Je reçois, oui, des confidences, mais ils ont tellement l'impression que je vais les entendre, les écouter, puis c'est vrai que je le fais. Je le fais trop, parfois, là. J'écoute.
T'as pas vu ça? Mais t'as travaillé fort pour être ami.
J'ai travaillé fort pour être aimé.
Ça tombe pas du ciel.
Ouais, mais je pense pas que je le faisais pour être aimé. C'est particulier ce que je veux. J'ai hésité un peu à te répondre. Je pense pas que j'ai cherché à faire ce métier-là pour être aimé. J'ai cherché à faire ce métier-là pour me montrer à moi et à ma mère, surtout adoptive, que je pouvais faire quelque chose d'intéressant. Puis qu'elle me regarde. Mais malheureusement, ma mère ne me regardait pas tant que ça. Et ça, c'était une grande tristesse quand ma mère me dit, elle me donnait jamais de compliments. C'était sa nature, ça venait d'une génération, aucun compliment. Fait que moi, j'en faisais plus pour qu'elle me regarde. J'ai même acheté un 55 pouces, un téléviseur de 55 pouces
qu'elle me regarde. Pour qu'elle voit
assez gros. Et oui, puis elle me regardait pas. Elle me regardait, oui, mais elle me disait aucun compliment. Et jamais, 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 rarement.
Les parents que l'on aurait voulu avoir et les parents que l'on a eus...
Oui.
À peu près tout le monde vit ce deuil-là. Du parent parfait que l'on aurait donc voulu avoir.
Bien sûr.
Là, tu te rends compte, à un moment donné, après un certain nombre d'expériences ou à un certain âge, c'est des gens qui ont aussi des défauts.
Et qu'on en a aussi.
Ça, c'est...
Oui, ah oui, mais t'as raison.
Ça, c'est la suite de la question.
Ah oui, absolument. Parce que tu te dis, t'as un très bon point, tu te dis, finalement, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, avec ce qu'ils étaient, mm-hmm. avec ce qu'ils avaient eu de leurs propres parents.
Oui.
Puis, tu sais, quand tu regardes les parents, parce qu'on regarde toujours les histoires idéales, on ne regarde pas les vraies histoires de tout le monde. Chacun son lot à transporter. On se permettrait à parler de ton intimité, puis tu me sortirais 3-4 affaires difficiles de ta vie. On parlait avec notre technicien, il dirait la même chose. Chacun transporte son lot. Et moi, quand j'ai compris ça, ça m'a réconforté en me disant, José Hutto, arrête, t'es pas tout seul. On transporte tout quelque chose. Fait que ça a enlevé de l'épaisseur sur ma douleur.
T'sais. OK, José Lito, le père de famille.
Oui.
Deux enfants.
Mm-hmm.
Des jeunes, 18-19 ans, je pense.
Exactement ça.
La fille un petit peu plus jeune que le garçon.
18 ans, exactement.
OK. Est-ce que tu as dû faire, toi, le deuil du père que tu pensais être avant de les voir débarquer dans ta vie?
Ah oui.
18 ans plus tard, est-ce que tu es capable de te dire, « Oh, finalement, j'ai pas été capable de remplir le mandat que je m'étais fixé à ce point-là, mais j'ai été pas pire. »
Je pense que j'ai été pas pire, mais si tu me disais aujourd'hui avec un recul... Qu'est-ce que j'aurais fait de mieux?
Mm-hmm.
J'aurais plus fait de sport avec mon fils. Des fois, je me dis, tu sais, j'en fais plus maintenant, puis je me dis, pourquoi je me suis privé de tout ça? Je sais pas pourquoi, parce que je pensais que j'avais pas une masculinité aussi puissante que ça. Parce que ça, j'ai été beaucoup écrasé, moi.
Oui.
Et je pensais pas que j'étais un vrai homme, dans le sens où je pouvais, moi aussi, jouer dehors, puis être bon en ski, alors que je suis très bon en ski, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, mais ils n'ont pas souffert de ça. Mon fils a jamais dit, j'aurais aimé ça que tu sois plus avec moi dans le sport. Mais j'avais une grande qualité comme père. J'étais à l'écoute en mot. T'as dit, même dans les bouts difficiles d'Antoine a connu une adolescence difficile.
Ouais.
Puis j'étais là en mot, j'étais bon. Là, je me trouvais bon. Je me disais.
Dans l'action.
Ah, j'étais organisé. J'avais de l'écoute comme dans le train. J'étais vraiment bon. Puis ça, ils me le disent souvent. Et des fois, les gens disent, oh, t'es chanceux d'avoir un père comme, mettons, José Hutto, là, parce qu'on est toujours de l'extérieur mieux vu que. Puis mon fils tout le temps, moi, j'ai le gars du train en permanence dans ma vie.
Ben oui, mais c'est quand tu es l'enfant de quelqu'un de relativement connu, en partant, tu es le fils d'eux ou la fille d'eux.
Bien sûr.
Et ensuite, tu dois faire tes preuves.
Ça, c'est pas évident. Ça, c'est pas évident pour eux autres.
Bon, puis c'est ça. Ces enfants-là, là, c'est des adultes, là, OK?
Oui.
Bon.
C'est le fils de Véronique Béliveau, en plus, qui a eu une carrière pendant 25 ans.
Bon, c'est ça, aussi. Ça vient des deux côtés, là.
Puis il y a moi à travers ça, puis on est des travailleurs acharnés, parce que Véronique travaille aussi à mes affaires. C'est sûr que ça, à un moment donné, j'ai senti, c'est drôle, parce que ma fille me parlait de ça il y a 2-3 jours. C'est drôle que tu me parles de ça. Elle m'a dit, c'est difficile pour moi de me tailler une place, parce que je suis toujours la référence de quelqu'un. Elle me disait, jamais dit ça. Puis on a beaucoup d'anxiété. Elle avait beaucoup d'anxiété. Mais tous les enfants adoptés ont souvent un problème d'anxiété parce qu'il y a un vide intérieur très grand. Puis j'ai fait, OK, parfait. Qu'est-ce que tu voudrais? qu'on enlève, comme on met-tu de la pression? Pas de pression. Si j'ai de la difficulté à me définir et à trouver des talents aussi évidents que les vôtres. Et là, j'ai compris. Trouve-toi-en un talent, tu dessines super bien, t'es bonne en mode, on va t'en trouver des talents, tu vas voir, t'en as plein. Mais je manque d'assurance, papa. On va travailler là-dessus.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a une pression parce que... Mais oui, c'est sûr qu'il y a une pression. Mais
en même temps, pour une fille de 18 ans, c'est normal de pas tout savoir.
Mais oui, mais...
Et de pas être certaine de grand-chose. Comme pour un gars de 19 ans, c'est là...
Encore moins.
J'espère que ces gens-là ne savent pas tout à cet âge-là. On a souvent l'impression de tout savoir.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a une pression supplémentaire. On regarde aujourd'hui là, ce qui se passe avec la COVID.
Ouais.
Je veux dire, excuse-moi de revenir là-dessus, mais ça met un taux d'anxiété énorme aux jeunes, qui en ont déjà un sur les épaules.
Oui, puis ils ont été coupés socialement des autres. Puis tout. Au moment où nous, on a uni des liens pour la vie, eux autres ont été mis en... On leur a mis 3 points de suspension.
T'as raison. Puis les sauve de ça. Ma fille hier, là, elle a un nouveau petit copain. Là.
Ouais.
Puis elle a fait hier qu'on lui dise, ben, petit copain, pour pas venir, parce qu'on va une amende de 6 000 $. Écoute, je pensais que j'avais dit que le toit venait de couler sur sa tête, puis qu'il y a, je dis, c'était l'enfer. J'ai dit, tu comprends, là, qu'on peut, mais en même temps, on va trouver une solution, on va trouver quelque chose. Bon, tu comprends, mais c'est pas évident. Donc, elle me dit, puis là, elle me parle, pour la première fois, elle dit, c'est dur pour nous, la COVID, papa, je sais qu'on a déjà parlé, mais elle dit, faut que je t'en parle, comment c'est dur. Puis là, elle me dit, tout expliqué que tous ces réseaux sociaux, elle est plus capable de faire du Zoom, parce qu'il y a une autre affaire qui est bien importante. Je m'en ai ici tantôt, là. Moi, je viens d'en faire beaucoup d'entrevues, là.
Ouais.
Je tripais parce qu'on allait se voir avec un plexiglas entre les deux, puis des mesures de sécurité, puis un 2 mètres de distance, puis le masque jusqu'à temps que j'arrive à toi. Mais ça fait du bien d'avoir quelqu'un en face de soi puis se parler.
Ah, totalement.
Je veux dire, c'est comme un événement.
Totalement. Mais la pandémie, ça va être ça aussi. Ça va peut-être être le moment de réapprendre à apprécier des banalités.
C'est clair.
Aller au restaurant.
Écoute.
Et s'asseoir dans le restaurant. Pas juste faire un prêt-à-emporter.
Mais là, je l'ai vécu dans le Nord. Parce que l'autre jour, je m'en vais dans le Nord, comme bien du monde, faire du ski. Et tout d'un coup, j'arrive à Saint-Sauveur. Il y a un bar qui est rempli à pleine capacité. Chacun porte son masque, il l'enlève, il s'assoit. Mais moi, j'ai dit à ma fille qui était avec moi, j'ai dit, mais c'est bien drôle. On dirait qu'on est dans une autre vie, là. On dirait que c'est comme si, une heure plus tard, j'étais dans la vie d'avant. Il y a des distanciations et tout ça. Mais il y avait du fun dans le bar, là. Il me disait, mon Dieu, c'est longtemps que j'ai pas vécu ça, moi.
La vie d'avant, José Lito, tu m'amènes. Quand tu faisais ton talk show.
Oui, oh mon Dieu, oui. Devine qui vient ce soir.
Ça fait. Puis, je m'étais pas rendu compte que ça fait aussi longtemps.
Eh bien, écoute, je pense que ça fait 17 ans.
17 ans.
Oui, c'est énorme.
Je disais dans mes notes qu'un talk show de. Un talk show de variété, tu retoucherais peu à ça.
Non. Non, non,
parce que ça n'existe plus, des talk shows de variété, ou parce que toi, José Lito, tu te dis non, me plier à un format de variété, puis avoir des idées, des stunts à tous les soirs, puis on reçoit un tel pour faire ça.
Non, c'est ça qui m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est faire ce que je fais comme dans le documentaire José Lito au cœur du monde. J'ai adoré ça.
2 chaises, 1 micro.
Oh, que j'aime ça faire ça. Ça, j'aime ça. Là, j'ai une autre série là, que je vais proposer. Ça se peut que je revienne dans José Lito au cœur du monde. Là, on regarde tout ça.
Ouais.
Ça m'intéresse beaucoup. Mais là, la prochaine année, je vais faire de la fiction. Puis c'est déjà beaucoup. Puis j'ai 2 autres livres en écriture. Puis j'ai d'autres affaires, là.
Mais quand tu fais José Lito au cœur du monde... Tu reçois des gens qui ne sont pas connus. Tu peux recevoir des gens qui sont aussi connus.
Ouais.
Déjà, ça, c'est une grande libération du talk show de variété.
Bien
où
sûr.
Tu dois recevoir
comme
Pierre Lapointe le disait, des A.
Bien sûr. Puis pas beaucoup de B.
Ben, des B une fois de temps en temps.
Ouais, puis
quand ça va très mal, des C rendus à la fin de la saison, là.
Oui, parce que ça, c'était intéressant. Un jour, moi, je faisais sûrement le talk show de fin de soirée, puis je voyais du monde qui disait dans mon équipe, oui, mais pas ça, j'haïssais ça quand on avait de la médisance et que j'haïssais ça, du monde qui disait, lui, là, puis lui. Moi, de mes équipes, c'était impossible. Ouais. On parle pas mal du monde. Je déteste ça. Et tout d'un coup, j'avais dit à la personne qui était avec moi, j'avais dit, tu vas voir que ton B et C, il va être pratique en tabarnouche rendu au mois d'avril. Fait que considère le don tout de suite. Tu comprends? Parce que c'est à nous à faire en sorte que l'invité devienne bon. On a une responsabilité comme intervieweur.
Ouais.
Il y a des invités qui sont plus plates que d'autres. Mais les invités, il y a des invités qui demandent juste à aller cueillir quelque chose. On a une responsabilité comme intervieweur aussi. Fait que moi, j'aime pas beaucoup cette... Puis là, il y en a beaucoup de shows présentement. Il y a de la vedette actuellement. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup.
Mais parce que ça se décline sur différentes plateformes aussi.
Bien sûr, il y en a beaucoup. Je dis pas qu'il y en a trop, là. Il n'y en aura jamais assez.
Non,
il y en a beaucoup.
Il y en a.
Puis il n'y en a pas beaucoup avec des inconnus d'exception que j'appelle, donc des gens qui ont, sont pas connus puis ont des histoires extraordinaires à porter. Donc ça prend un équilibre dans tout ça. Mais moi, je suis très content qu'il y ait plein de shows. Ça fait travailler beaucoup de monde actuellement. Il y a des chanteurs, il y a des animateurs, il y a plein des acteurs qui ont pas de boulot puis qui vont faire plein de jeux puis plein d'affaires puis on les voit puis sont super intéressants, là.
Et là, quand tu invites des gens qui sont pas nécessairement connus, là, le bassin, il est inépuisable.
Inépuisable.
Alors que dans des variétés, dans des émissions régulières à la bien grosse sûr. Télévision, ben, le bassin, il est épuisable.
Ben, épuisable. Et tu te rends compte qu'il y en a, il y en a une vingtaine, trentaine. Là, tu te dis, waouh, ça, je vais faire un beau stunt. Je vais le placer là. Mais c'est pas en avoir beaucoup, effectivement.
Et c'est pour ça qu'une émission comme On prend toujours un train, ouais. qui était d'une pertinence indiscutable.
Ah, merci.
Mais à un moment donné, est-ce que tu envisages de pouvoir reprendre le concept, mais dans quelques années, à un moment où le bassin, justement, se sera
Mais moi, les renouvelé. Deux dernières années du train, j'avais mis des inconnus d'exception dans le train, puis on faisait pratiquement la même cote d'écoute. Moi, j'aimais beaucoup faire le train. Beaucoup, 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 beaucoup. Mais à un moment donné, c'est moi qui ai dit à Radio-Canada, je pense que j'ai fait le tour du train, là. Mais en même temps, est-ce que tu sais qu'on me parle de ça tous les jours? Hier, j'ai mis sur mon réseau Facebook.
Ben, c'est pas pour rien. Des images. C'était une bonne émission.
Mais il y avait quelque chose là qui se passait. Mais je dirais pas non à refaire des émissions spéciales dans le train. Là, le train Offord, je pense qu'il est plein d'opérations. J'irais prendre le train de Charlevoix, qui est une région extraordinaire. Mm-hmm. Puis effectivement, faire une dizaine d'émissions spéciales. Je dis pas non. Toi, tu me fais penser à ça. Je dirais peut-être pas non à ça. Ça m'intéresserait. J'aime beaucoup l'entrevue. Puis je pense qu'avant de mourir, je vais essayer de me faire un grand plateau. Je rêve de faire un grand plateau avec plein de collaborateurs autour. J'aimerais beaucoup, beaucoup ça. Toutes des jeunes. Pour me rappeler que je suis vieux.
Tu m'as plein de jeunes. Tu te sens vieux?
Ouais, on m'a déjà dit quelque part un jour, tu sais, tu commences à être vieux. J'ai déjà entendu ça, moi, quelque part. Et puis, j'ai dit, pardon, moi, je me sentais jamais aussi jeune que maintenant. Je sais pas ce qui se passait là. On s'est excusé après, là, parce que on
Non, mais est-ce que c'est. Ben, José Lito, est-ce que c'est venu te chercher d'une manière, est-ce que tu étais un petit peu insulté de te faire dire t'es vieux?
Ah, moi, j'étais insulté.
T'as-tu un malaise avec...
Ah, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop tôt pour qu'on me dise ça. On l'a juste dit, ouais, tu comprends, pour avoir des jeunes, on aime beaucoup les jeunes, et puis tu là, j'ai fait, mon Dieu.
OK.
C'est comme ça, là, j'ai compris.
C'était dans le sens réducteur de la chose.
C'était plus que réducteur. Puis cette personne-là serait même excusée à un moment donné.
Éliminateur.
Oh, c'était, ouais, éliminateur. Puis moi, j'ai dit, OK, je vais envoyer le... Je vais envoyer l'animateur faire une petite pause.
Oui.
Puis le producteur va venir tantôt avec des choix d'animateur.
OK.
Tu comprends? Le producteur est toujours pas loin. Il fait, pas de problème. L'animateur va aller pleurer dans la chambre à coucher. Mm-hmm. Puis moi, à ce moment-là, je vais revenir, puis je vais présenter des nouveaux noms. Puis finalement, ils sont arrivés en me disant, je voudrais te demander pardon. Ça, c'est
le vieux.
Erreur, je suis pas de même que je voulais dire ça.
Le vieux était remplacé par le sage. le sage décisionnel.
J'adore. Oui, puis c'est lui qui décide. Et puis moi, je resterai toujours manager organisateur dans ma vie. Toujours.
Ben, dans 10 ans, tu te vois où? Parce que dans 10 ans, tu vas avoir 65. Ce qui est l'âge charnière ici, 65. Là.
Ouais, c'est l'âge de Véronique Béliveau, ma femme.
Bon, et pourtant, on ne fait pas affaire avec quelqu'un.
Non.
T'sais, mais non. Toi, dans 10 ans?
J'aimerais ça écrire de plus en plus. Je vais commencer d'ailleurs à le faire davantage. Et je ne serai certainement plus en onde. Mais là, je veux revenir. Là, j'ai 2-3 propositions de radio actuellement, puis je veux revenir à la radio. C'est le médium que j'aime le plus au monde. J'aime ce médium-là. J'ai commencé à 16 ans faisant de la radio. Ouais. Donc, c'est le médium que j'aimais vraiment le plus. Je ferais de la radio de chez moi, puis j'écrirais des livres, je superviserais des fictions. Je suis très heureux à raconter des histoires. Je suis très, très heureux quand je fais ça.
Mais c'est très casanier, le portrait que tu dresses là.
Ça ressemble à moi maintenant. Ma vraie nature est plutôt casanière. Moi, je suis un sauvage. J'ai des amis intimes, c'est les mêmes depuis des années. Naturellement, quand on fait ce métier-là, Sylvain, il y a quelque chose de formidable. On est amis de tout le monde. Mais on est amis de personne, vraiment. Tu sais, tout le monde pense qu'on est des amis parce qu'on se voit, on mange de temps en temps ensemble. Ouais. Donc, moi, non, je suis un casanier, je suis chez moi, je suis vraiment un solitaire. Moi, je suis vraiment plus sortir de chez moi, m'extirper de chez moi pour aller à un lancement, c'est terrible. Quand j'y suis, ça va bien. Mais pour me rendre, ça me demande des efforts. Plus en vieillissant encore.
Donc, on vient d'apprendre que José Lito Michaud, qui a fait des milliers d'entrevues dans sa vie. Qui a passé sa vie à jaser avec les autres, est un solitaire.
Oui, je parle peu dans l'intimité. Je parle peu. Je lis 2-3 livres par semaine. Je vais regarder une 20aine d'heures de télé par semaine que je répartis ici et là à travers quand mes enfants sont pas là puis après l'affaire. Puis j'observe le monde, puis je prends des notes, puis je mange en table avec mes enfants. On a du fun, puis on rit, puis tout ça, d'un coup, je me tais. Je suis un grand silencieux dans la vie.
Ah oui?
Un contemplatif. Et là, tu vois, j'ai hâte de partir en vacances. pour arrêter 3 semaines, 1 mois, et je vais être un grand contemplatif. Je suis admiratif.
Ah oui, t'es capable de t'étendre et de regarder le plafond et rien faire?
C'était peur, hein. Ma blonde dirait, ça se peut pas. Ça se peut pas que ce gars-là qui est actif comme ça fait ça. Vraiment. Je suis capable de m'arrêter complètement. Et je souhaite ça à tout le monde dans la vie de s'arrêter de temps en temps.
Le grand paradoxe. Tu es un être paradoxal, finalement, José Lito.
C'est ce que disent mes psychologues depuis quelques années. Mais en même temps, je voudrais pas être ordinaire. Je voudrais pas être... j'aime ça être complexe comme ça, puis tu l'es tout autant. On l'est tous un peu.
Mais un homme capable de fixer le blanc, mais qui en même temps travaille dans la mosaïque juste à côté.
Toi, t'as des super de belles métaphores. Moi, j'aime beaucoup tes... J'espère que je t'envoie quelques-unes au passage.
Non, mais la mosaïque, c'est parce que quand on regarde tout ce que t'as fait, c'est une mosaïque.
Ouais, c'est beau ce que tu me dis là.
C'est une mosaïque, sauf qu'une cohérence. Là-dedans.
Ah, tout se tient. Tout est dans tout pour moi, ça c'est sûr.
Il y a toujours un gars au milieu qui jase. Merci.
Merci à toi, surtout une part de joyeuses fêtes et merci infiniment de l'invitation.
Ben merci de l'avoir accepté, d'avoir partagé. Cette heure vraiment beaucoup trop courte.
Absolument. À très bientôt.
José Lito, je te laisse aller, mais avec un cadeau.
Oh!
Oui.
Une chanson, j'imagine?
Ariane Moffatt.
Oui. On l'aime d'amour.
Oui, tirée de son album Petite main précieuse.
Bien sûr.
La chanson Pour toi. José Lito Michaud, merci beaucoup.
Merci à toi.